gold distillery. I hope to live happy ever after though. Disaster will last.
Radio G.
101.5 FM.
Vous écoutez Radio G sur le 101.5 FM et c'est maintenant l'heure de notre petite interlude culturelle avec une jolie immersion dans le noir. Alors, installez-vous je ne sais comment, profondément dans un fauteuil et laissez-vous bercer par cette noirceur fictionnelle dont on s'abreuve avec délectation. C'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Et maintenant, générique maestro. Devinez, on ne change pas ou presque une formule qui gagne. Donc, Calibre 58, c'est Luc Douin et moi cette année, avec pour chaque émission une interview d'un auteur et un décryptage de son ouvrage. Un débat ciné-DVD ou bande dessinée. La nouvelle chronique de Luc, Voyage en exergie, il vous dira ce que c'est. De la musique et une salve d'informations en série. Une tuerie, quoi.
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 24 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train rolls out of Kankakee and moves along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name and switchyards full of old black men and graveyards full of rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm a train they call the City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Dealing cards with an old man on the club car. Penny a point, nobody's keeping score. Hey, now pass that paper bag that holds a bottle and feel the wheels rumbling neath the floor. And the sons of poor men porters and the sons of engineers ride their daddy's magic carpet made of steel. Mothers with their babes asleep rocking to that gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm a train they call the City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the City of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home and we'll be there by morning, through the Mississippi darkness rolling down to the sea. And all the towns and the people sing to fade into a bad dream, and the steel rails still ain't heard the news.
The conductor sings his song again. The passengers will please refrain. This train's got the disappearing railroad blues. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm a train they call the City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. I'll be gone 500 miles when the day is done.
Vous aurez reconnu City of New Orleans de Johnny Cash, ou vous connaissez sa transposition par Joe Dassin en Salut les amoureux, reprise par Miossec. Le choix de ce premier morceau de musique n'est pas anodin. Il nous a été suggéré par Xavier Boissel, auteur de Sommeil de cendre chez 10-18, un roman qui nous plonge dans les remugles du SAC, le fameux service d'action civile, au milieu des années 1970, en 1974 plus exactement. On va de Paris en Ardèche comme de Charybde en Scylla, en compagnie de trois personnages qui sont amenés à se croiser et à se confronter. Il y a Michel Éperlan, vétéran de la guerre de Corée en instance de divorce et qui est flic. Mais aussi Alexia Xorn, qui multiplie les alias, les pseudos, les faux noms, et qui est adepte du Krav Maga, cette espèce de boxe israélienne. Elle a un joli grain de beauté, mais contrairement à ce que l'on peut penser au début, elle n'a pas de grain. Elle est accro à la drogue. Elle traîne une blessure à l'âme. Elle n'a rien demandé à personne, encore moins à son petit ami, un spécialiste des embrouilles qui lui a ramené des dettes et des tortionnaires. Alors elle est en fuite. Non loin de tout ça, la mule, également tueur, qui vient faire le ménage en Ardèche où Alexia s'est réfugiée, mais qui n'est pas très à l'aise dans les tâches ménagères. À partir de ce trio de personnages, Xavier Boissel nous propose une intrigue qui mêle politique, corruption, idéologie et éthique. Le tout avec quelques hommages, Jean-Patrick Manchette, une jolie écriture et un sens de la narration. Alors, je l'ai dit, c'est chez 10-18 où l'auteur avait déjà fait paraître Avant l'aube, roman unitaire mais antérieur à Sommeil de cendre. Place maintenant à cette interview réalisée par téléphone. Et faites bien attention, au début ça grésille un peu fort comme si on était sur écoute.
I shall never forget the weekend Laura died. A silver sun burned through the sky like a huge magnifying glass. It was the hottest Sunday in my recollection. I felt as if I were the only human being left in New York. For with Laura's horrible death, I was alone. I, Waldo Leidecker, was the only one who really knew her.
Xavier Boissel, bonjour.
Bonjour.
Vous sortez Sommeil de cendre, un deuxième roman paru chez 10-18 après Avant l'aube. Je dis deuxième roman, mais absolument pas le deuxième d'une série. Pourquoi ce choix de ne pas de faire des romans unitaires ?
Je ne suis pas sûr que ce soit un choix unitaire parce que il y a quelques personnages d'Avant l'aube qui reviennent dans Sommeil de cendre, un petit peu comme dans Balzac. Néanmoins, on peut lire les deux totalement de manière séparée. Mais j'aime bien, à chaque fois, créer un univers, pas forcément clos sur lui-même, mais avec sa cohérence romanesque, narrative, esthétique.
Alors, après Narval et Marlin, débarque Éperlan. Qu'est-ce que c'est que cet attrait pour les personnages qui portent des noms de poissons ?
Alors, l'éperlan, c'est un petit poisson de friture hein, qui est aussi hein, qui est entre dans l'estuaire de la Gironde plus précisément, mais qui est à la fois un poisson d'eau douce, un poisson de mer, un marlin et puis un narval. En revanche, ce sont des mammifères marins. Eh bien, c'est pas simplement un attrait pour les poissons. J'aime beaucoup travailler les noms, des personnages, et très souvent il y a une dimension zoologique dans les noms des personnages, et j'aime beaucoup m'amuser avec un thème qui est aujourd'hui très d'actualité, qui est l'animalité, et ça m'amuse un petit peu de jouer avec ça. Dans le précédent roman, il y avait un personnage qui s'appelait Candiru, qui est un poisson qui dévore les autres, donc les petits poissons mangent les gros poissons mangent les petits, etc. Donc voilà, c'est une métaphore presque zoologique.
Oui, et puis on peut dire que vous allez quelque part à la pêche aux gros poissons dans vos romans.
Et il y a aussi ça, voilà, puisque donc je vous remercie de l'avoir noté, puisque dans Sommeil de Sonde, il y a un personnage qui apparaissait aussi, mais de manière très furtive, dans un volo qui s'appelle l'Anson. Alors, c'est pas forcément un gros poisson, donc mais il y a aussi toute cette dimension-là, en effet. On pourrait jouer sur ce mot.
Oui, et puis alors, vous jouez aussi sur les... Alors, j'ai cherché, j'ai pas très bien trouvé les mots qui commencent par des mêmes syllabes. Alors, on m'a dit que ça pouvait être aussi bien assonance qu'allitération, alors que je pensais que c'était que pour la fin. Vous jouez beaucoup avec les assonances et les allitérations, puisque Marlin, c'était... j'ai lu un hommage à Marlowe. Et moi, quand j'ai commencé à lire votre roman et que j'ai lu Éperlan, avec l'intonation que lui donne notamment Alexia, ça m'a rappelé Manchette.
Vous avez pensé à Épaulard, c'est ça ?
Ouais, j'ai pensé à Épaulard. C'était voulu ?
Bien sûr, évidemment. Je suis content que vous l'ayez relevé.
C'est quoi Manchette pour vous ?
Manchette pour moi, c'est l'alliance entre Gustave Flaubert et Karl Marx. Voilà. C'est Flaubert qui aurait lu Karl Marx, mais avec une 1673. Donc pour moi, c'est d'abord Manchette. C'est un très très grand styliste, parce que je suis comme Manchette, je suis un intégriste du style. Et d'autre part, Manchette, c'est aussi quelqu'un qui avait une très très grande conscience sociale, une conscience politique très aiguë, donc puisqu'il venait de ce qu'on appelle le gauchisme. Et dans mon parcours, moi aussi, j'ai été amené effectivement dans mes jeunes années à avoir un pied dans le marxisme, un pied dans l'anarchisme. Donc voilà, pour moi, c'est-à-dire que Manchette, c'est la synthèse parfaite entre l'esthétique et la politique. C'est quelqu'un qui a réussi à politiser l'esthétique avec une finesse inégalée et inégalable à mes yeux.
Alors, Avant l'aube, c'était un roman historique qui abordait notamment le SAC, le service d'action civique, à l'époque du général de Gaulle. Sommeil de cendre, alors, c'est plus du tout un roman historique, puisque je rappelle que vous êtes né en 1967, 7 ans avant les faits, donc vous ne pouvez plus prétendre à écrire un roman historique, mais ça aborde toujours le SAC, et cette fois à l'époque de Pompidou, vraiment à un moment tangent, charnière, c'est la mort de Pompidou. Qu'est-ce qui a ou n'a pas changé entre les deux époques, et qu'est-ce qui va changer ?
Tout change, et en même temps rien ne change, parce que on est dans le gaulo-pompidolisme, enfin même le pompidolisme mais agonisant. Donc ce sont les derniers feux, si vous voulez, du gaullisme. On va basculer dans autre chose. Donc lors de la présidentielle de 74, donc le candidat gaulliste, c'est Chaban-Delmas, il apparaît à la télévision habillé en noir et blanc, accompagné de Malraux, pour parler de la résistance à la jeunesse française. On voit que ces deux personnages n'avaient absolument rien compris à ce qui s'était passé à l'époque. Ils n'avaient pas intégré mai 68, et ils ont été balayés par l'histoire et par le vent du libéralisme giscardien. Donc tout change avec Giscard. En tout cas, Giscard, c'est quelqu'un qui a essayé donc de mettre en accord la société française avec mai 68. Il y a eu quand même de grandes avancées dans les libertés publiques sous Giscard, notamment à la loi sur le divorce, par exemple. Et en même temps, rien ne change, parce que Giscard, donc, est lui aussi à sa façon un opérateur du spectacle, au sens où l'entendaient les situationnistes.
Dans Sommeil de cendre, trois personnages vont se confronter. On a déjà cité Perlan. Est-ce que vous pouvez nous présenter les deux autres, c'est-à-dire Meul et Alexia ?
Alors très rapidement, alors oui, et Perlan, donc lui, c'est un policier, donc un anticommuniste viscéral. Alors je ne voulais pas que ce soit trop abstrait, donc c'est pour ça que j'en ai fait un vétéran de la guerre de Corée, qui est donc une guerre d'ailleurs qui est souvent méconnue par les Français, qui ignorent qu'il y a eu un corps expéditionnaire donc en Corée. C'est une guerre qui a rarement été très traité par la littérature de genre. Et je voulais aussi qu'il y ait un personnage féminin très fort, très puissant, parce que souvent dans les romans policiers, les femmes font tapisserie, elles sont stéréotypées. Donc Alexia, donc c'est une jeune fille donc qui a des parents donc juifs, hein, qui donc son père juif allemand, sa mère juive catalogne. Et qui, au début des années 60, est allé vivre en Israël, l'utopie collective des kibbutz. Et donc, il est un personnage, qu'on pourrait qualifier de libertaire, de très, très indépendant. Donc, et puis, mule. Alors, mule, en allemand, ça veut dire ordure, mais aussi une mule, quelqu'un qui va être convoyeur de drogue aussi. Et lui, donc, c'est un personnage du sac qui agit dans l'ombre et qui est un homme très dangereux. Donc voilà, la trame est constituée de ces trois fils narratifs et on se doute bien qu'à un moment donné, les trois personnages vont se retrouver.
Oui, alors Alexia, vous vouliez pas en faire un archétype et c'est étonnamment un personnage de femme fatale mais avec une addiction. Elle pourrait d'ailleurs être synonyme de salut pour Éperlan et puis non, mais peut-être bien que si. Qu'est-ce qui vous attire dans cette hésitation justement ?
Oui, alors c'est aussi effectivement une femme fatale. Je ne dirais pas qu'elle puisse être salvatrice parce que là, il y a une petite connotation, on serait du côté de la rédemption. En revanche, ce qui est sûr, c'est que bon, Éperlan, comme c'est un vétéran, un mort-vivant de la guerre de Corée, il a décidé de ne plus être ému. Mais le rôle qu'elle va jouer avec Éperlan, c'est qu'elle va, elle va le toucher, elle va l'émouvoir. Et je voulais qu'il y ait beaucoup d'émotions dans cette rencontre, dans la rencontre entre ces deux personnages qui sont tous les deux broyés par l'histoire avec sa grande hache, hein, pour parler comme Pérec. Lui et Perlon broyés par la guerre de Corée, et puis elle, jeune fille qui ensuite est allée vivre en Israël et puis qui s'est fâchée avec son petit copain après la guerre des six jours. Et donc voilà, je voulais en faire tous les deux des personnages un petit peu broyés par l'histoire et qui se rencontrent comme ça, deux personnages écorchés qui se rencontrent dans un moment presque épiphanique, même s'il ne se passe rien entre eux.
Oui, et puis cette chose qui est très romanesque et qu'on a tous vécu, qui est, il découvre qu'il peut se passer quelque chose parce qu'il voit un portrait photographique et une chose le marque sur ce portrait photographique, on ne déflore pas, c'est un grain de beauté.
Oui, alors bon, ça évidemment, j'avais en tête Laura d'Otto Preminger, hein, donc avec Jane Tierney. C'était ça mon idée de départ, sauf que dans Laura c'est un tableau, ici c'est une photo. Et effectivement, qui est le déclencheur, il conserve cette photo toujours dans sa poche, qui le brûle en quelque sorte. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a pris la décision de ne plus être ému, si on voulait paraphraser cette phrase de Baudelaire, mais qui va justement chavirer à cause de ce personnage ou grâce à ce personnage féminin.
On va parler d'un autre personnage, de Ghislain Bray-Martin. De quoi il est symptomatique, ce personnage, à la fois politiquement, socialement, sociologiquement ?
C'est un enfant, oui, parce que la question du gauchisme est abordée. Donc, la sociologie du gauchisme est assez simple. À la fin des années 60, début des années 70, très souvent, les gens qui émergeaient du côté du trotskisme, donc ils étaient d'origine ouvrière, enfin, donc ça dépend de quel trotskisme on parle, ou modeste, ou petite bourgeoise, et souvent, alors c'est pas non plus l'intention, hein, il faudrait quantifier tout ça, je suis pas historien, les jeunes qui adhéraient au maoïsme étaient plutôt des bourgeois, voire des grands bourgeois, sauf bien sûr l'AGP, hein, qui recrutait dans un milieu un peu plus divers. Donc lui, son père est un médecin sur la place de Paris, un chirurgien reconnu. Donc c'est un fils à papa. Hein, donc comme il y en avait beaucoup chez les maoïstes qui ont fait leur petite crise d'ado en étant très très loin de ce qui se passait à Pékin. Donc voilà, c'est un personnage de son époque. Mais bon, donc il a une relation politique qui est très très superficielle en fait. Comme souvent pouvait l'avoir quelques gauchistes. Il est dans la mode de son époque, tout simplement. Donc c'est un fils de bonne famille qui cherche à s'encanailler en prenant des postures gauchistes. Mais tout cela, bien sûr, ne sont que des postures.
Oui, alors en parlant de postures et de politique, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui on écrive encore du polar politique à la manchette, alors que l'on vit une certaine époque quasiment apolitique, avec très peu d'options ?
Alors, c'est une question que je me pose souvent, moins qu'avant. Alors, bien sûr, il y en a encore, hein, il y a des gens comme, je pense à quelqu'un comme Thomas Cantaloube, hein, bien sûr, hein, donc, ou même, donc, dans, dans, génération un peu plus âgée, des gens comme Dominique Manotti ou bien Hervé Lecor, hein, qui peut aussi parfois aller du côté politique. Moi, je pense que tout simplement, le polar, si vous voulez, bon, c'est d'ailleurs une des thèses très fortes de Manchette, le polar apparaît après la défaite du négatif face à l'avènement du capital. Donc le polar, c'est le genre par excellence du désenchantement. On peut penser à Dashiell Hammett, hein, qui donc a quitté l'agence Pinkerton parce qu'il ne voulait pas aller casser le briseur de grève à la sortie des usines, et on écrit des romans. Et donc c'est le genre de la désillusion. Bon, ça c'est pas neuf, hein, je veux dire, Lukács l'avait bien relevé en parlant de Flaubert. Et il faut trouver une sorte de compensation politique en écrivant des polars. C'est pour ça qu'il y a toute une génération, hein, qui a suivi un peu Manchette comme ça, hein, donc qui s'est mis dans les pas de Manchette, pas toujours avec beaucoup de bonheur, il faut quand même le dire.
Alors, Éperlan, c'est un amateur de vinyle et de jazz. Alors, on est à la radio. Alors, on écoute quoi comme morceau maintenant?
On pourrait écouter par exemple Blue Bayou de Roy Orbison, qui est un morceau absolument merveilleux. J'ai parlé d'épiphanie tout à l'heure, et donc qui est un moment épiphanique dans le roman, puisque c'est le moment où Éperlan et Alexia, donc effectivement, dansent en écoutant ce morceau.
Eh bien, c'est ce qu'on écoute maintenant. Xavier Boissel, je vous remercie. Je rappelle votre roman Sommeil de Cendre, c'est paru juste avant l'été, c'est chez 10-18. Bon, eh bien, Xavier Boissel, merci. On attend avec impatience votre prochain roman.
C'est moi qui vous remercie pour votre invitation.
Feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. All the fishing boats with their sails afloat. Sleepy eyes, how happy I'd be. Oh, to see my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back someday.
C'était Blue Bayou de Ray Orbison, une chanson reprise par Quentin Tarantino dans Pulp Fiction. Encore une fois, merci à Xavier Boissel de nous avoir accordé quelques minutes de son temps et d'avoir pu vider son sac. Vous écoutez Calibre 58 sur Radio G 101.5 FM. Et ça y est, C'est maintenant l'heure de cet étrange voyage en exergie concocté par Luc. Une question s'impose. Qu'est-ce à quoi ?
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Tu vois, Julien, je commence fort cette nouvelle saison de Calibre 58. Une citation de la Bible, le Nouveau Testament. En réalité, c'est une manière de poser le cadre de la chronique de cette saison que j'ai intitulée « Voyage en exergie ». Et je commence par l'exergue qu'utilise Anne Holt pour son roman « Bienheureux ceux qui ont soif », publié en France aux éditions Audin en 1999. Voyons voir un peu la pertinence de cet exergue. Le roman de Anne Holt, norvégienne d'origine, est une petite mécanique de précision. On pénètre dans ce roman par deux entrées, celle d'Anne Wilhelmsen, inspectrice de la police d'Oslo, homosexuelle et qui roule en Harley Davidson rose. Elle conduit deux enquêtes, d'une part sur des lieux découverts par hasard, aspergés de grandes quantités de sang, et d'autre part sur l'étrange recrudescence de viols de jeunes femmes. L'autre entrée, c'est celle de Christine Haverstadt, la victime du dernier viol commis, et de son père Finn. Là où les personnes qui inondent les lieux avec du sang laissent un signe, une suite de chiffres écrits dans le sang, toujours commençant par 9. Pour mener ses enquêtes, Anne Wilhelmsen est assistée du jeune policier Erik Eriksen et elle travaille en étroite relation avec le procureur Haakon Sand. L'enquête est méthodique et commence par tenter de trouver une explication à cette suite de chiffres. Mais dans le même temps, le père de Christine, la dernière victime de viol, décide de venger sa fille. Lui aussi enquête secrètement et il a un avantage sur la police. Il n'est pas parasité par l'élucidation des scènes aspergées de sang. Rigoureux et méthodique, il progresse vite, très vite. Le roman d'Anne Holt n'est pas très long, 230 pages dans sa réédition de la collection Point. C'est un roman précis dont le seul objet est la résolution des deux affaires. Les quelques digressions autour de la vie privée des trois protagonistes, Anne Wilhelmsen, Haakon Sand et le commissaire Kalbakken, ne sont là que pour donner de la chair aux personnages, pour les humaniser. Mais elles prennent assez peu de place. Le style est à l'identique et la traduction de Gro Tang y est sans doute pour beaucoup. Anne Holt ne vient pas de nulle part. Inspectrice de police, reporter à la télévision norvégienne, avocate spécialisée dans les affaires d'enfants et ministre de la justice de son pays, n'en jetez plus. Et cela compte dans ses romans. Le portrait d'Oslo qu'elle brosse ne s'inscrit pas dans le genre carte postale. On devine aussi son attachement aux questions touchant au féminisme et au genre. Le viol et la situation des femmes issues de l'immigration, par exemple. La composition du personnage de l'enquêtrice homosexuelle semble très proche de la réalité. Anne Holt arrive, par toute une série d'indications, à nous faire comprendre la difficulté qu'il y avait en 1994, même en Norvège, à affirmer son genre. Mais le plus important tourne autour des problématiques de la police, des moyens dont elle dispose, des limites auxquelles elle est soumise. Il y a de l'éthique dans sa description de l'univers policier. Alors cet exergue, n'est-il là que pour faire beau ? Rappelons-le, on est en terre protestante. Plus de 65% des Norvégiens sont membres de l'Église luthérienne évangélique de Norvège, Église d'État jusqu'en 2012. La référence à l'Évangile selon saint Matthieu ne peut donc pas être surprenante. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Mais cet exergue pourrait passer pour lénifiant. Il laisse penser que, même si la société est peuplée aussi de criminels, la police est là pour nous protéger et qu'au final, tout rentrera dans l'ordre. Ces exergues, on les oublie presque systématiquement au cours de la lecture. Et il faut bien le dire, on y revient rarement. Mais pour ce roman tout particulièrement, si on fait ce retour en arrière, on comprend qu'Anne Holt dégage des perspectives qui dépassent très largement le pur cadre de la justice officielle. Le roman s'intitule « Bienheureux ceux qui ont soif ». Il est de Anne Holt et il est publié aux éditions Point.
Merci Luc pour cette première immersion dans la première bonne page d'un roman. C'est vrai que parfois les exergues nous surprennent. Enfin, les auteurs qui les choisissent et qui mettent la barre haut. Mais si vous écoutez bien cette petite musique qui monte, vous comprendrez que c'est maintenant le moment de passer à la partie débat DVD de l'émission. Cette semaine, nous vous proposons Le coup de l'escalier de Robert Wise avec Robert Ryan et Harry Belafonte. Luc, de quoi donc ça nous cause ?
Un ancien flic, Dave Burke, Ed Begley, condamné pour corruption, prépare un coup. Cambrioler une agence de la First National Bank un jeudi, la veille du jour de la paye. Pour réussir ce coup, il lui faut deux comparses. Ce seront Johnny Ingram, Harry Belafonte, chanteur de jazz et joueur aux courses invétérés, et Earl Slater, Robert Ryan, ancien militaire blanc et raciste. Johnny Ingram doit 7 500 $ à Baco, un parrain de la pègre, et Earl Slater vit au crochet de Laurie Shalewinters. Comme de bien entendu, le coup est sûr et certain. Les repérages ont été faits, mais comme de bien entendu, rien ne se passe comme prévu. C'est du grand film noir et c'est efficace.
Now here's the setup. That side door is the key to the whole job. The bank stays open Thursdays till 6. Most of the factories pay on Friday, so the bank is loaded with payroll cash and deposits from the stores. Every Thursday night, there's close to $200,000 in untraceable cash sitting in there. A half dozen clerks stick around for an hour, totaling up and straightening out the books. The assistant manager has a bad heart. Joe Foss, the guard, is about to retire, has glasses and arthritis. That's it. That colored waiter from the drugstore brings them coffee and sandwiches just after 6. The rest of the town's home and supper. You could take it with a water pistol.
Alors bon, Le coup de l'escalier, c'est une adaptation d'un roman de William P. McGivern. C'est sorti en 58 à la série Noire, sous le numéro 439. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que la fin est totalement différente de la fin de ce film. Mais, pour en revenir à l'essence même de ce film, c'est un film de braquage, plus précisément de braquage de banque. Mais qu'est-ce qui va le différencier des autres films, Luc ?
Ben, écoute, pour moi, ce qui va le différencier, c'est, moi je dirais peut-être, la lenteur. L'installation, la mise en place du braquage, presque je vais dire même pas la mise en place du braquage, le travail pour réunir toute l'équipe du braquage prend plus de la moitié du film, avec une particularité sur les personnages. Chaque personnage est terriblement construit, que ce soit Dave Burke, qui est joué par Ed Begley, donc celui qui est à l'origine du braquage, qui va recruter Johnny Ingram, qui est joué par Harry Belafonte, et puis qui va recruter aussi Robert Ryan, qui va jouer Earl Slater, qui tient le rôle de Earl Slater. La construction des personnages pour nous faire comprendre les sensibilités, les fragilités de chacun des personnages va prendre énormément de temps. Le braquage en lui-même, si mes souvenirs sont bons du film, je pense qu'il doit, ça doit durer 20 minutes et encore, hein, c'est très très court.
Oui, je pense que c'est bien moins que, oui, que 20 minutes.
Donc voilà, pour moi, c'est ce qui fait. On est concentré sur les personnages, mais il y a des raisons. Hein. Enfin, moi, je pense qu'il y a des raisons très particulières qui font que Robert Wise a déroulé son film de cette manière-là. Et une des raisons, elle tient, moi, je pense, au fait que Harry Belafonte est coproducteur du film. Et on sent bien qu'il a eu une attention à, sur ses caractérisations des personnages. Harry Belafonte, un noir qui est addict au jeu, qui est toujours amoureux de sa femme mais qui vit séparé, qui a des dettes, et qui va s'affronter à Robert Ryan, raciste, blanc, ancien militaire. Tout ça, moi je pense que dans le film, la patte de Harry Belafonte est présente et a influé et influe certainement sur le déroulement du film.
Oui, parce qu'il faut dire, pour ceux qui ne le savent pas, qu'Harry Belafonte, en fait, c'est un militant pour le droit civique. Plus près, là, on l'a vu jouer dans J'ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee. Et il a, tu as raison, ils ont discuté avec Robert Wise, et notamment la fin du film. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'adaptation du roman de William McGivern. La fin, elle est diamétralement opposée à ce qu'elle est dans le film, et celle du film, elle est là pour mettre un peu, j'ai l'impression, dos à dos, deux idéologies, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un moment dans le film qui est extraordinaire, c'est quand Robert Ryan dit à Belafonte, pour moi, tu n'es qu'un point noir sur un visage, et donc je l'éclate en gros, et la réponse de Belafonte. Parce qu'il répond à Belafonte. Il attend un petit peu. Et puis, juste avant qu'il se sépare, ils sont tous les trois réunis pour que lancer le casse. Il dit, oui, enfin, moi, je suis peut-être un point noir, mais toi, t'es qu'un point blanc. Voilà. Et ça, ça veut tout dire. Et c'est une explication du fait qu'il ne puisse pas se réconcilier quelque part. Moi, j'y vois souvent, dans ce genre de film, des extrapolations sur la société américaine. Je pense que Robert Wise, quand il fait ce film-là, il dépeint la société américaine et il donne une explication. On sait bien que les studios hollywoodiens ont fait leur beurre sur le western, et quelque part, le western, le point de rupture au 19e siècle, ça reste quand même la guerre de sécession. Hein, et ce racisme qu'a Robert Ryan là, il vient avant tout de là, et avant tout il aime bien jouer les hommes blancs pauvres, tu sais, dans des états de Géorgie ou des choses comme ça, et se retrouver quasiment en égal, d'égal à égal avec un black, et partager un magot à part égale, ça devient très compliqué, et quelque part ils sont tous les deux dans leur rôle, tu sais, de la grenouille qui aide le scorpion à traverser un fleuve.
Ah oui, c'est...
Moi j'ai vraiment vu ça.
Alors effectivement, je pense qu'on est effectivement dans cette dualité là. Cette dualité d'ailleurs est, comme tu le dis, hein, que tu le dis très bien. Il y a un postulat politique, idéologique, et vraiment moi je le rattache fortement à Harry Belafonte, enfin au discours de Harry Belafonte, parce qu'on sait qui est dans la vie réelle Harry Belafonte, jusqu'à la fin du film, où sa patte est encore là, quand le pompier ou le policier dit « vous pouvez les emporter », et où le pompier répond « mais lequel est lequel ?» quoi. Alors il y a des raisons pour qu'on sache pas qui est qui à la fin du film, mais tout d'un coup ils se retrouvent confondus l'un et l'autre au final, c'est-à-dire que quel que soit finalement l'affrontement qui a pu avoir lieu, au final ils sont on n'est plus capable de les reconnaître, on n'est plus capable de savoir qui est qui, et si objectivement il y a un bon noir et un mauvais blanc.
Oui, tu reprends exactement ce que je voulais dire quand il est confronté à l'inanité de deux idéologies, en fait. C'est-à-dire que on a presque un discours sous-jacent humaniste, sans le dire. C'est qui revient un peu à la racine. On a parlé de ce film de braquage, qui est un film de braqueurs, donc d'hommes. Quelque part, j'ai aussi l'impression qu'il y a deux portraits de femmes qui sont exceptionnels, et que tous les problèmes du film découlent du fait que les deux femmes aimeraient que leurs hommes respectifs s'en sortent, mais c'est, les deux hommes sont des taiseux et ils n'expliquent pas ce qu'ils traversent. Et on sait bien que le coup, il va être foireux. On n'a aucun doute. Le regard d'Ed Begley, il est complètement fanatique. Il a un regard de fanatique au début. Robert Ryan explique très bien que c'est un raciste et qu'il bossera jamais bien avec un noir. Et Belafonte, lui, c'est un joueur. Donc s'il accepte, c'est parce que c'est un joueur et donc il accepte pour de mauvaises raisons. Donc le braquage, il est condamné dès le début. Le seul truc qui pourrait sauver en fait ces deux personnages, c'est leur pendant féminin, et c'est un pendant qui est volontairement, j'ai l'impression, derrière. C'est quoi ton avis?
Ah ben moi je pense que on a effectivement c'est ça l'intérêt de ce film, c'est qu'en 1h32 il nous installe dans une complexité, la complexité humaine, c'est-à-dire qu'on on peut faire des fiers à bras, mais le principe de réalité qui est présenté par ces deux femmes,
Shelley Winters et Gloria Graham.
Donc Shelley Winters qu'on avait vu chez Stanley Kubrick. Ces deux femmes effectivement qui sont amoureuses toutes les deux, qui représentent finalement une forme de d'inscription dans la société assez bourgeoise. Harry Belafonte dit à sa femme dont il est séparé, retourne avec tes blancs, retourne en fait, va leur lécher les bottes, quoi. Enfin, c'est ce qu'il lui reproche. Sauf qu'il sait aussi que s'il dit ça, c'est que effectivement, comme tu le dis, c'est un taiseux et qu'il peut pas avouer. Alors il essaye d'avouer, il lui dit qu'il est encore amoureux, mais il peut pas avouer que pour regagner de la dignité, il va être obligé de commettre un acte délictueux violent, dont lui-même, je pense, sait d'avance que c'est perdu, enfin que la probabilité de réussite est très faible, quoi. Je pense que quand on est au moment du braquage, donc dans ces 15 dernières minutes, quand il est dans la voiture, qu'il attend, qu'il prend le plateau, qu'il se dirige vers la porte, tout ça, il sait que c'est quasiment perdu d'avance. Mais ces rôles de femmes sont effectivement éminemment importants dans le film. Enfin, ils sont un des éléments du film, et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est souvent que le film de gangster, c'est un film de mecs, c'est des mecs qui sont à l'action, qui vont se battre entre eux, qui vont être en rivalité, et là on a deux personnages qui sont à pied d'égalité dans leur situation intime, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux amoureux d'une femme, ils ont tous les deux une petite vie finalement, mais voilà, ils ont il faut qu'ils regagnent pour Harry Belafonte qui liquide ses dettes, pour Robert Ryan qui regagne de la dignité finalement auprès de la femme auprès de qui vit, alors que il est quand même assez léger. Enfin, il tombe vite dans les bras de la voisine, quoi, par ailleurs. Hein,
Oui, mais alors. Pour expliquer quand même vite fait, Ryan, il a fait la guerre de Corée et il est de toute évidence victime d'un syndrome post-traumatique et on peut y additionner une dépression. Il trouve pas de boulot, enfin il trouve pas d'envie de trouver un boulot ou des choses comme ça. Il passe son temps sur un lit dans une chambre d'hôtel à se larmoyer pendant que sa femme, elle, va travailler et rapporte de l'argent. Il y a ça. Il y a une scène qui est extraordinaire dans un bar où il devient pris d'une violence terrible parce que il y a deux jeunes qui roulent des mécaniques et qui jouent à faire la guerre alors que lui il a fait la guerre, il en connaît la violence. Ce qui amène une autre réflexion chez moi, c'est le film est le pendant du rêve américain, c'est-à-dire c'est ce que Miller appelait le cauchemar climatisé. On a une bande, ils sont trois losers. Ils veulent se refaire sur le dos de la bête, c'est-à-dire les États-Unis. Et puis, ils sont condamnés à être losers.
Oui. Alors, comme tu dis, se refaire sur le dos de la bête, La bête en question, c'est aussi la First National Bank, enfin la représentation de l'Amérique dans tout ce qu'elle peut avoir c'est l'exemple même de l'Amérique, cette First National Bank. Le bâtiment est gigantesque, enfin là où ils vont commettre ce hold-up, c'est un bâtiment impressionnant de toute évidence un petit bled paumé. Et oui, moi je pense que le discours politique derrière ça, comme effectivement on est obligé de le voir comme ça, c'est que certes le rêve américain il peut se réaliser, mais tout le monde n'est pas accepté au paradis en fait. Quand le handicap est fort, eh ben tu peux rêver, tu peux effectivement imaginer pouvoir accéder à la réalisation du rêve, mais ça c'est la tromperie sur la marchandise que développe le discours américain, c'est de faire croire aux gens qu'ils vont pouvoir y arriver. Et on sait que ça s'est vérifié, ça se vérifie tout le temps. Il y a peu d'élus, il y a peu de gens qui réussissent à accéder à la réalisation du rêve américain.
Alors moi, pour finir quand même, je voulais quand même dire quelque chose sur Robert Ryan. Quel acteur. Ryan, c'est on l'a apprécié déjà. Il a déjà joué pour Robert Wise. Nous avons gagné ce soir. Enfin, des choses comme ça. Il est dans son rôle là, qui a un rôle, j'allais dire, à l'opposé de ce qu'est sa personnalité, puisqu'on sait qu'il est engagé lui aussi. Il est plutôt progressiste. Il est plutôt démocrate. Et il est très à l'aise quand il s'agit de jouer les rôles de gens qui sont extraits de la fange, qui sont les simples citoyens lambda, les laissés pour compte. Moi, je le trouve exceptionnel. Y a une image de lui dans le film qui te marque plus particulièrement ou pas du tout ?
Très étrangement. Moi, c'est le personnage globalement dans tout le film. J'essaye de penser à une image particulière. Je retiens pas d'image particulière de lui, sauf qu'effectivement, dans le trio d'acteurs, on a trois fortes personnalités de comédiens, chacun dans son genre, chacun dans son domaine, même si peut-être Harry Belafonte pourrait faire un peu trop de Harry Belafonte, enfin on pourrait lui reprocher ça, c'est d'être quand il apparaît qu'il entre dans l'ascenseur et qu'on entend sa voix, on n'a pas besoin de voir son visage, hein. On sait que c'est Harry Belafonte qui est là, hein. c'est réglé. Mais il compose un personnage, moi je trouve un peu trop, peut-être un peu trop plaqué, qui correspond trop au personnage d'Harry Belafonte d'une certaine manière. Moi, je pense à Ed Begley, le comédien qui joue Dave Burke. Moi, il m'a fait penser à un comédien de second plan qu'on a vu souvent aux États-Unis, qui s'appelait Ernest Borgnine. Et je le mets dans la même catégorie, c'est-à-dire des seconds rôles, mais qui ont une forme de stature, qui composent des personnages très, très costauds en réalité, enfin, qui jouent vraiment bien. Effectivement, quand tu dis qu'il a un air halluciné au moment du braquage, il est complètement halluciné. Il y a une composition qui est forte. Donc, effectivement, on a quand même trois comédiens qui portent le film avec une efficacité redoutable.
Oui, alors composition qui est forte. C'est marrant parce que Ernest Borgnine, je l'avais pas vu dans Ed Begley. Pour moi, il copiait tout sur Edward G. Robinson.
Ouais, c'est vrai aussi. Oui.
Et j'ai des images d'Edward G. Robinson justement, totalement comme ça, les yeux émerveillés de ce qu'il va faire, alors qu'il se précipite vers un gouffre. Et pour moi, c'est un peu ça. On pourra rappeler juste pour les auditeurs que Ed Begley, c'est le jury numéro 10 dans 12 hommes en colère.
Donc
ça, on est dans un film qui là aussi est extraordinaire et ce qui prend le temps d'installer des choses. Et comme quoi il faut toujours prendre le temps d'installer les choses. Eh bien, on a été un petit peu long sur ce film, mais bon, n'est pas Robert Wise qui oui. veut, j'ai envie de dire. Et ce film est un vrai coup de cœur que j'ai eu en le voyant. Donc, il est ressort chez Rimini, un éditeur rennais, dans un combo Blu-ray DVD qu'on vous recommande. Il y a tout plein de bonus en plus dedans. Luc, t'es d'accord avec moi?
Moi, je fais plus que recommander, parce que un film qui dit tout en 1h30, ça peut être qu'un grand film. Et là, Robert Wise fait vraiment un film qui est mais millimétré, qui est au carré, qui est d'une vraiment. Moi, j'ai été pris dans ce film complètement, quoi. Hein, vraiment, totalement, ouais. Donc, j'approuve.
Eh bien, merci, Luc. Je sais que tu es dur en affaires, donc là, je suis très content.
Thank you.
grève en série. L'indique, la revue de l'association Fondue au Noir s'arrête après 14 ans et 46 numéros. Une bien triste nouvelle en provenance de Nantes. On a plus que jamais besoin d'écrire et d'écrit dans un monde trop virtuel. Déjà qu'à Mauves-sur-Loire, le festival Mauve en Noir a disparu. Vraiment, c'est triste. Pendant ce temps, la Tête en Noir continue son petit bonhomme de chemin angevin. Le fanzine dirigé par Jean-Paul Guéry en est à son numéro 218. Et il propose de brasser l'actualité littéraire policière avec l'appui de rédacteurs chevronnés triés sur le volet. Les grands prix de la littérature policière ont rendu leur verdict. Fondé en 1948, il récompense Hugues Pagan pour Le Carré des Indigents chez Rivage, ça c'est en littérature française, et American Predator de Maureen Callahan chez Sonatine, roman traduit de l'américain par Corinne Daniello. L'époque est également au Trophée 813. Solac de Caroline Hino au Rouergue pour le roman francophone. Le Rouge de Jurika Pabicic chez Agulo dans la catégorie étrangère, autrement appelé Trophée Michel Huita, du nom d'une documentaliste de la Bibliothèque des littératures policières à Paris, décédée et qui a beaucoup apporté au genre. Le Goût du Noir de Ménégaldo et Petit pour le Trophée Michel Renaud, qui récompense un ouvrage documentaire. Sangoma, Les Damnés de Cape Town, de Caril Ferré et Corentin Rouge en bande dessinée. Et enfin, L'Homme aux Doigts d'Or de Marc Villard chez Cohen et Cohen pour la rubrique Nouvelles. On ne saurait être complet sans vous dire que ce week-end, c'est America à Vincennes avec un plateau très relevé. Voilà, Calibre 58, c'est fini pour cette fois-ci. La semaine prochaine, c'est Entre les pages. N'oubliez cependant pas nos amis imaginaires le mardi soir à 21h. On se quitte en musique. Bye bye.